Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, à toi qu'on espère te léguer un monde plus libre, plus jouasse, plus honnête et donc plus propice aux vidéos de petits chats qui font les foufous en se chassant dans les cartons. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté, liberté logicielle, liberté d'usage et liberté citoyenne dans l'espace numérique. Seulement, nous avons préparé cette release avant les attentats terroristes du vendredi 13 novembre dernier et surtout avant la proclamation de l'état d'urgence. Nous sommes donc en plein dans l'actualité, mais décaler le sujet serait en nier son importance pour la vie de tous, tous les jours. Dans une release précédente, nous t'avions parlé de politique, et je t'y contais l'histoire de l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation, une association française à les mêmes buts, mais avec des moyens plus modestes, la Quadrature du Net compte défendre et garantir les libertés sur l'espace numérique au niveau politique. C'est ainsi qu'elle combat le troll dans son incarnation totémique, la loi Bullshit, vendue emballée dans un joli papier rose, avec des noms évocateurs comme « lutte contre le pédoterrorisme »,« contrôle des anarchistes nazis » ou encore « défense contre les méchants lanceurs d'alerte ultra-libéraux » et mon préféré « éradication de l'évasion fiscale des RMistes fraudeurs ». Non, sur ce dernier, je déconne, on va quand même pas faire du populisme outrancier. Dernière en date, la surveillance électronique globale de la population serait la solution miracle. Pardon, vous ne le voyez pas, mais il y a des guillemets en fait. Elle permettrait de détecter les suspects. Hop, je refais des guillemets. Sauf que sur les 10 dernières années, les assassins qui ont perpétré des attentats en France étaient déjà tous fichés comme dangereux par les services de police. Le défaut de la surveillance globale, c'est qu'elle augmente considérablement le nombre de faux positifs, donc de personnes innocentes, vues comme suspectes. Elle ajoute du foin quand on cherche une aiguille dans une meule de foin. Or, ce que demandent le renseignement intérieur et les services de police sur le terrain, c'est pas plus de suspects, mais plus de moyens pour enquêter sur place, sur le terrain, pour surveiller plus précisément ceux déjà fichés. Les États-Unis consacrent un budget largement plus hollywoodien à la surveillance globale, mais ils sont toujours incapables, malheureusement, d'empêcher des attentats à la bombe, comme celui lors du marathon de Boston, ni les tueries, hélas, sinistrement régulières. Alors j'ai cherché des raisons pour moins avouable, mais nettement plus vraisemblable, pour instaurer la surveillance globale de l'ensemble des citoyens. De là, j'ai établi un classement. Or, qui dit classement dit top, et qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Parce que cela peut toujours permettre d'inculper n'importe qui à n'importe quel moment. Songez à Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt, lui qui, justement, militait pour les écoutes globales constituées des dossiers judiciaires. Eh ben, le voici Marie.
Numéro 4.
Parce que c'est un marché stratégique dont il sera forcément passé à une grande entreprise privée française où on est assuré d'être embauché une fois venu l'heure de la retraite pantouflarde de hauts fonctionnaires.
Numéro 3.
Coluche disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Mais réduire les voix discordantes, c'est trop tentant. Suffit de dire aux petits électeurs qu'on sait ce qu'ils font à 23h la nuit venue sur le long des berges du canal.
Numéro 2.
Parce qu'on peut toujours vendre l'accès aux fichiers à une compagnie d'assurance ou à un vendeur de meubles suédois. Et même si c'est interdit, oh, pas vu, pas pris.
Numéro 1.
Parce qu'on ne sait jamais, on pourrait se retrouver à collaborer avec un autre pays européen en toute franche camaraderie. On repartirait dans l'échange de fichiers au motif Vichy comme en 40. Je vais avoir des emmerdes. Hein. Oui, pourquoi vous me faites non ? Comme la surveillance globale ne fonctionne vraiment pas, le dernier dada de nos gouvernants est de vouloir interdire le chiffrement des communications. Et tant pis si on rend possible le piratage de transactions bancaires ou de serveurs. Affligé devant les prétextes alignés depuis 10 ans, j'ai pensé à nos amis du ministère de l'Intérieur. J'ai cherché des prétextes plus honorables et sans utiliser les mots, alors c'est un ni oui ni non, hein. J'ai essayé d'éviter d'utiliser les mots nazi, terroriste ou pédophile. J'ai fait le tour et comme je suis un flemmard, j'ai fait un classement et j'ai réutilisé le même jingle.
Le top 5.
Je suis désolé.
Numéro 5.
Il faut interdire le chiffrement parce que c'est pas ça qui va résoudre le chauffage, monsieur. Vous avez vu comment il monte ? Surtout ce mois-ci.
Numéro 4.
Il faut interdire le chiffrement parce que l'algorithme RSA n'est pas certifié norme française ni issu de Matra Thompson.
Numéro 3.
Il faut interdire le chiffrement parce que Bitcoin favorise l'évasion fiscale.
Numéro 2.
Il faut interdire le chiffrement parce que les chiffres sont arabes, ils ne sont pas issus de notre culture judéo-chrétienne.
Numéro 1.
Il faut interdire le chiffrement parce que chiffrer et déchiffrer utilise beaucoup d'énergie, c'est une menace planétaire par le réchauffement climatique. Avec la COP21, nous avons mené l'initiative de circoncire ce dangereux danger. Comment ça ? Quoi ?
On dit pas circoncire, on dit circonscrire. Circoncire, c'est un autre truc.
Ah oui, non mais c'était pour éviter de passer pour un raciste.
Justement.
Bref, les prétextes à la con pour passer une loi scandaleuse, c'est comme l'aftershave. Faut en mettre pour calmer le feu du rasoir, mais pas trop, sinon ça pue. En fond du futur immédiat, comme il faut beaucoup de moyens pour sauvegarder ta liberté de regarder en stream des vidéos sur internet de chatons qui font les foufous en se chassant de carton en carton, je crains bien qu'il ne faille user de ton droit de téléphoner à ton député, et plus d'une fois cette année.